Ce matin, on va commencer avec Psaume 144, verset 1. Béni soit l'Éternel, lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes poings pour la bataille. Amen. Mais parmi nous, il y a beaucoup qui n'ont pas envie du combat, qui ne veulent pas la bataille. Nous voulons nous reposer dans la présence du roi. Nous voulons vivre dans sa paix. Nous voulons qu'il nous réconforte tranquillement. Mais aussi longtemps qu'on vive, que nous sommes habitants sur cette planète tombée, nous n'avons que deux choix. Nous pouvons nous battre ou bien nous pouvons perdre. Ça, c'est les deux choix. Car si nous ne nous battons pas, nous allons certainement perdre. Mais si nous nous battons, cela ne veut pas dire qu'on va gagner chaque fois. Mais si nous ne nous engageons pas à la bataille, nous allons certainement perdre chaque fois. Il y a une guerre qui se bat tout autour de nous. Et si nous voulons nous dire que cette guerre n'est pas là, ou bien que je ne suis pas concerné, c'est le moyen certain et sûr d'arriver au défait et à la destruction. Si nous apprenons à nous battre, nous aurons peut-être des saisons de paix, de réconfort, de repos dans la présence du roi. Mais cela n'arrive qu'à ceux qui gagnent la bataille. Amen. Et dans cette guerre, nous avons deux ennemis. L'accusateur de nos âmes, qui vient souvent, et notre ennemi, qui ne nous quitte jamais. Et cet ennemi, c'est moi-même. C'est toi. Souvent, l'ennemi le plus dangereux, c'est moi-même. Comme dit le dicton, j'ai rencontré l'ennemi, il était moi. Mes pensées, si je ne les soumets pas à la parole de Dieu, peuvent devenir une force qui me détruit. Dans Psaume 94, versets 11 à 15, il dit, « L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Elles ne sont que du vent. Bienheureux est l'homme, Éternel, que tu corriges toi-même et à qui tu enseignes ta loi, pour lui donner la quiétude dans les jours mauvais, jusqu'à ce que ce soit creusé pour le méchant une fosse. Jamais l'Éternel ne laissera son peuple. Il n'abandonnera pas celui qui lui appartient. À nouveau, on jugera selon la justice et tous les cœurs droits se conformeront à elle. » Verset 17 à 19. « Ah, si l'Éternel ne m'avait pas secouru, je serais bien vite allé rejoindre à la demeure du silence. Quand j'ai dit, je vais perdre pied, dans ton amour éternel, tu m'as soutenu. Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. » Amen. Comment est-ce qu'il peut nous détruire, cet ennemi qui est moi-même? D'abord, il me met mon centre sur moi-même. Je pense à moi et à ce dont j'ai besoin, et à ce dont j'ai envie, et à ce qui m'oppose, et à ce qui me fait peur, jusqu'à ce que je perde la vue de Dieu. Et en plus, je perds la vue des autres, que je pourrais aider, et qui pourraient m'aider. Je m'isole. Je ne fais plus confiance aux autres. Je pense à comment et combien ils m'ont fait de la peine, et je me sépare d'eux. Je pense à toutes les fois que Dieu a dit non à mes prières, et je refuse à prier. Et je me fâche contre la seule personne qui peut me sauver de la mort. Je deviens le centre de ma vie et je ne permets d'entrer que ceux qui peuvent m'aider à faire ce que je veux. Vous pouvez imaginer combien la vie comme ça détruit une personne. Cette mentalité se voit dans les selfies. Je ne veux pas me donner aux autres. Je veux pas leur aider. Je veux qu'ils approuvent ce que je suis, comment je m'habille et ce que je fais. Et si je n'ai pas beaucoup de likes, de aimes, je suis déçu et fâché. Parce que je suis tellement centré sur moi-même que j'ai l'idée que les autres devraient être aussi centrés sur moi. Au moins assez pour remarquer que j'ai posté une selfie pour cliquer « like ». Quand tu vois quelqu'un qui fait souvent des selfies, tu vois quelqu'un qui s'isole. De la vraie amitié. Des bonnes relations avec les autres. Qui cherchent ce qui est superficiel et qui cache la réalité. Une femme de Dieu a dit à ses enfants, « Habillez-vous d'une façon qui fait tout le monde regarder ton visage. Et ton visage d'une façon qui fait tout le monde voir Jésus. » Je vais répéter ça. Habillez-vous d'une façon qui fait tout le monde regarder ton visage. Et ton visage d'une façon qui fait tout le monde voir Jésus. Amen. Amen. Mais quand tu vois un selfie, tu vois quelqu'un qui crie, regardez-moi, louez-moi, admirez-moi, moi, moi, moi. Et cela crie aussi, je suis vide, je suis seul. J'ai tellement besoin de quelqu'un qui me donne des compliments que je mets ma photo devant tout le monde pour chercher des compliments. C'est triste ça. Remplis-toi de la parole de Dieu. Amen. Lis la parole de Dieu jusqu'à ce que tu rendes compte de combien Dieu t'aime. Amen. Et combien il a fait dans ta vie. Et quand tu comprends vraiment l'amour de Dieu pour toi, tu n'auras pas besoin des likes des autres. Il y a même des gens qui font des selfies quand ils sont en train de chanter au Seigneur. C'est pas JB. Ils proclament à tout le monde qu'ils se considèrent plus importants que Dieu. Ce n'est pas Dieu qu'ils sont en train de louer, c'est eux-mêmes. Ils pensent, regarde comment je loue le Seigneur. Non. Je vois combien tu penses qu'à toi-même. Je parle de comment je peux être moi-même mon plus grand ennemi. Quand le centre c'est moi, je ne peux plus suivre Dieu. Et si j'obéis à Dieu seulement quand je pense que ce qu'il dit est raisonnable, c'est moi qui suis le centre. J'ai fait de moi mon Dieu. Et j'ai perdu le seul vrai Dieu. Le moi est si dangereux, car le moi me dit des mensonges. Et puisque ces mensonges viennent de moi, je les crois. Le moi me dit qu'il faut rester là où je me sens à l'aise. Quand Dieu me dit de venir marcher sur les eaux. Le moi me dit qu'il faut rester là où je me sens en sécurité. Quand Dieu me dit de partir parce qu'il y a un vrai danger. Ou parce que Dieu a une bénédiction pour moi. Il faut partir pour le découvrir. Le moi me dit qu'il faut m'éloigner de ceux qui veulent me corriger. Parce que je préfère continuer comme je suis. Le moi me détruit. Alors, comment gagner? Comment avoir une victoire? Nous nous battons selon les méthodes de Dieu. Nous obéissons à la parole de Dieu. Nous faisons ce que dit le Saint-Esprit. Nous obéissons au leader que Dieu a choisi. Nous suivons les instructions que Dieu donne. Et nous faisons confiance en lui de faire des miracles, d'accomplir ce que nous ne pouvons pas quand nous nous battons de toutes nos propres forces. Parce que nous savons que nous avons besoin de son pouvoir surnaturel, le pouvoir du Saint-Esprit. Celui qui pense qu'il peut le faire de ses propres forces ne va pas réussir. Dans Proverbes, chapitre 28, verset 26, il dit, « Qui se fie à ses propres pensées n'est qu'un insensé, mais celui qui suit la voie de la sagesse échappera au danger. » Amen. En Juges, chapitre 7, verset 2, Dieu a averti Gédéon de ne pas prendre risque d'une bataille qui pourrait permettre de croire qu'ils se battaient de leur propre force. Jusad 2 dit, l'Éternel dit à Gédéon, ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Sinon, les Israélites s'en vanteraient à mes dépens, en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin du pouvoir de Dieu. Nous avons besoin des miracles de Dieu. Amen. Notre Dieu est grand. Il est le souverain, le tout-puissant. Et notre Dieu, qui est si grand, fait des grandes choses. Il fait des choses étonnantes. Il fait des miracles qui nous surprennent. Il fait des choses dramatiques, merveilleuses. Des choses qui nous poussent à dire, comme en Luc chapitre 5, verset 26, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Nous avons déjà étudié comment les louanges me transforment. En remplaçant les mensonges dans ma tête avec la vérité. En enlevant la tristesse pour me remplir avec la joie. En changeant mon deuil en allégresse. Nous avons aussi appris comment les armes de Dieu nous donnent, les armes que Dieu nous donne ne sont pas comme les armes de ce monde. Et quand nous battons les mains, quand nous levons les mains, et quand nous nous prosternons, Dieu agit. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire. Dieu fait des choses extraordinaires. Et nous avons envie de voir des choses extraordinaires. Amen. Faites par Dieu devant nos yeux. Nous avons envie de voir des miracles, des merveilles. Ce qui n'est pas possible pour nous de faire sans l'aide surnaturelle de Dieu. Qui ici a envie de voir des miracles? Lève la main si tu as envie de voir des miracles. Amen. Qui ici a déjà dans la tête un miracle que tu as envie de voir? Tu as déjà, je sais quel miracle je veux. Qui ici a déjà dans la tête un miracle que tu as envie de voir? Qui connaît quelqu'un qui a besoin d'une guérison divine? Et tu as envie de voir cette personne guérie. Tu as envie de voir cet miracle. Amen. Qui ici connaît quelqu'un qui est marié, qui a envie d'avoir un bébé, qui a besoin de miracle pour avoir un bébé? Amen. Qui a envie de voir un miracle de guérison pour avoir un bébé? Qui ici, quand tu lis la Bible au jour le jour, et tu lis les histoires de ce que Dieu a fait, et tu soupires pour avoir des miracles pour toi-même, pour tes proches. Amen. Qui ici, tu connais quelqu'un qui a besoin d'une délivrance, et tu as envie de voir un miracle de délivrance pour cette personne. Amen. C'est tout le monde, ou presque. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ont envie de voir des miracles. Cela ne veut pas dire qu'ils vont se tourner vers Dieu s'ils voient un miracle. Mais il y a dans l'être humain un désir de voir quelqu'un qui est plus grand, plus puissant que moi. Car nous savons tous que l'être humain ne peut pas se sauver du péché. Et nous avons besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus de Nazareth. Un être humain ne peut pas trouver des solutions pour les conséquences du péché. Nous avons besoin de juges qui jugent avec justice. Et ce juge, c'est Jésus. Un être humain ne peut guérir ni celui qui est né sans jambes, ni celui qui est aveugle, ni celui qui est paralysé, et ni beaucoup de maladies. Nous avons besoin d'un médecin divin. Et ce médecin divin, c'est Jésus, le Créateur. Amen. Un être humain ne peut pas ressusciter les morts. Nous avons besoin d'un roi ressuscité pour nous sauver de la mort. Nous avons tous envie de miracles. Et nous avons besoin de miracles. Il y en a ici qui ont besoin d'un miracle. Et qu'est-ce que c'est un miracle? Un miracle, c'est quand Dieu fait ce qu'il a envie de faire. Il faut comprendre que Dieu a plus envie de te guérir que toi, tu as envie d'être guéri. Dieu a plus envie de te servir, de te délivrer que toi, tu as envie de la liberté. Dieu a plus envie de te sauver que toi, tu as envie d'être libéré du péché. Nous sommes tellement habitués au péché et aux conséquences du péché que nous ne voyons plus combien cela est horrifiant à Dieu. Mais vous, les parents, vous pouvez comprendre ceci. Quand un enfant tombe sur le trottoir et se fait mal, et il pleure, et le genou saigne, et il crie, qui a plus envie que cet enfant soit guéri, toi ou l'enfant? Je pense que c'est toi, le parent. L'enfant a mal, est horrifié en voyant le sang sur la jambe. Mais le parent est encore plus horrifié en voyant souffrir son enfant. On entend pleurer son enfant en comprenant les microbes qui sont entrés par le trou dans la peau de son enfant. C'est le parent qui court pour trouver le kit de premier secours, qui lave le bobo, ce qui fait pleurer encore plus l'enfant, qui met quelque chose pour désinfecter la blessure, qui trouve un pansement pour le protéger contre une infection et contre les frottements aussi, et qui prend enfin un enfant dans ses bras pour le rassurer, et qui prie pour l'enfant soit guéri aussi. L'enfant n'a pas envie de laver le bobo, ni de le soigner au début. L'enfant veut être consolé, conforté, et il veut un bonbon pour le distraire de ce qui s'est passé. Le désir pour la santé est plus fort chez les parents que chez l'enfant. Et c'est la même chose avec ton Père Céleste. Il a plus envie de te guérir, de te délivrer, de te sauver, que toi, tu as envie d'être guéri, délivré, sauvé. Alors, un miracle, c'est quand Dieu fait ce qu'il a envie de faire. Quand Jésus marchait sur cette terre, en parcourant les villes et les villages d'Israël, il n'a jamais renvoyé quelqu'un qui venait à lui pour la guérison. Jamais. Il n'a jamais renvoyé quelqu'un qui venait à lui pour une guérison. Au contraire, la Bible nous parle de quand Jésus est allé quelque part, comme le Bethesda, il a cherché quelqu'un pour le guérir. En Marc 6, versets 5 et 6, la Bible nous parle aussi d'une visite que Jésus a faite à Nazareth. La Bible dit, à cause de l'incrédulité, chapitre 6, verset 5, il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il fut étonné de leur incrédulité. Jésus avait envie de faire des miracles. Il voulait les guérir. C'est le désir de Dieu. C'est la volonté de Dieu de faire des miracles. Dieu veut te guérir. Sachant que nous avons besoin de miracles et que Dieu a envie de faire des miracles, cela nous fait étudier les miracles de la Bible. Et ça, c'est une très bonne chose. Car lire la Bible, cela fait grandir la foi. Étudier les miracles, ça fait aussi grandir la foi. Et penser à ce que Dieu a déjà fait nous donne le courage de dire que Dieu va faire encore des miracles. Et considérer l'amour et la puissance de Dieu nous aide à croire que Dieu est fidèle et à croire que Dieu est bon et à croire que l'amour de Dieu pour moi n'a pas de fin. Et si je crois, tout est possible pour celui qui croit. Amen. Mais quand nous étudions ces miracles que Dieu a faits et qui sont décrits dans la Bible, nous voyons que souvent avant le miracle, il y avait des choses faites par le peuple de Dieu ou par une personne qui osait croire. Et c'est facile pour nous de dire, s'il y a quelque chose que quelqu'un a fait avant le miracle, et si je fais la même chose, peut-être c'est cette chose qui produit le miracle. Mais ce n'est pas comme ça. Ça, c'est la magie. Et notre Dieu n'a rien à faire avec la magie. Rien. Notre Dieu est une personne. Il n'y a pas de formule avec lui. Il n'est pas une force scientifique. Et si les conditions sont comme il faut, un phénomène se produit parce que les conditions sont correctes. Il est une personne. Et avec une personne, c'est plus compliqué. Dieu n'est pas une machine de miracle où tu appuies sur le bouton et le miracle sort de la machine. Dieu n'est pas un magicien. Il n'est pas une force scientifique. Il n'est pas une machine de miracle. Il est une personne. Pourtant, quand Dieu nous lisons la Bible, nous voyons que souvent il y avait des similarités en ce qui se passait avant le miracle. Quelque chose dans cette histoire qui est comparable avec quelque chose dans cette autre histoire et quelque chose dans plusieurs histoires. Et cela me fait faire attention. Car j'aime gagner. J'ai perdu et j'ai gagné. Gagner, c'est mieux. Amen. Je préfère gagner. Et si Dieu me donne des instructions qui peuvent m'aider, je vais écouter. Et je vais le faire. Je vais lever mes mains. Je vais battre mes mains. Je vais me prosterner. Je vais faire tout ce que Dieu dit parce que j'ai envie de voir ce que Dieu va faire. J'ai envie que sa volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Alors je vais étudier les techniques que Dieu nous donne dans sa parole et je vais faire selon le Saint-Esprit en moi, qui est en toi aussi, si tu as donné ta vie à Jésus. Je vais faire ce que Dieu dit et je vais voir ce que Dieu va faire. Amen. Dans mon dernier message, je vous ai donné trois techniques du combat. Technique numéro un, c'est battre les mains. Numéro deux, se prosterner. Numéro trois, lever les mains. Et j'ai vu ce matin, il y a plusieurs qui ont réussi avec ces trois points. Donc, ce matin, j'ai trois techniques supplémentaires. La première, technique de combat numéro quatre, crier. Josué, chapitre 6, verset 20. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris, et une muraille s'écoula. Dieu leur avait dit de crier, et par la foi, ils ont crié en obéissant à la parole de Dieu. Et Dieu a répondu avec un son plus étonnant que leur cri. Le son des murailles qui s'écroulaient. Amen. Je vous avertis qu'il y a des gens, pas nous bien sûr, mais il y a des gens qui ont étudié l'histoire de Josué et les peuples de Dieu et les batailles de Jéricho, où les murailles se sont écroulées au son du cri du peuple de Dieu. Et ils marchent autour de leur église pour avoir une victoire sur les problèmes de l'église. Peut-être il y a des conflits entre les frères et sœurs. Peut-être des problèmes de finances, mais ils marchent autour de l'Église en espérant que cela produise une victoire. Mais Dieu est miséricordieux et plein de grâce et patience. Et il ne fait pas s'écrouler les murs de l'Église. Le bâtiment reste toujours là comme un mémorial à la grâce de Dieu. Amen. Dieu a dit à Josué de faire le peuple de Dieu marcher autour de la ville une fois pendant 6 jours sans parler. Et le septième jour de marcher autour de la ville, 7 fois, sans parler. Et tout ça avant de crier. Et puis les murs sont tombés. Mais ce n'est pas une formule scientifique. Tu sais très bien que si tu vas autour d'une ville exactement comme on fait le peuple de Dieu avec Josué, tu n'auras pas le même effet. Les ondes sonores, même unies comme elles étaient dans la bataille de Josué, ne font pas tomber les murailles. C'était l'obéissance à la parole de Dieu. Ils ont obéi à Dieu et Dieu a agi pour leur aider parce qu'ils ont obéi. Amen. Psaume 81, verset 14 à 16. Si mon peuple m'écoutait et si Israël marchait sur les voies que j'ai prescrites, je ferai en un instant plier tous ses ennemis et je tournerai ma main contre ceux qui les oppriment. Et ceux qui haïssent l'Éternel lui seraient assujettis. Le temps de leur soumission durerait toujours. La bataille de Jéricho nous montre le pouvoir et la force de cette promesse. Il s'agit d'un peuple qui a obéi à Dieu. Et Dieu a fait, comme il a promis, en un instant plier tous leurs ennemis. Dieu a fait s'écrouler les murailles de la ville. Et le peuple de Dieu a eu la victoire. Il faut obéir à ce que Dieu dit. Et souvent, Dieu nous dit de crier. Des fois, un cri de guerre. Des fois, un cri de victoire. Mais si tu pensais que tout le paradis sera silencieux et tranquille, tu te trompes. On ne peut pas ignorer tous ces exemples que Dieu nous donne dans sa parole qui montrent que crier produit un effet plus important qu'avoir mal aux oreilles. On a crié aussi à la bataille miraculeuse de Gédéon. Quand 300 hommes avec des corps, des flambeaux, des vases d'argile et des grands cris ont gagné la bataille contre au moins 150 000 soldats qui avaient des armes puissantes. En Juges chapitre 7, verset 18, nous lisons de ces cris. Quand je sonnerai du cor avec ceux de mon groupe, vous sonnerez aussi du cor tout autour du camp et vous crierez pour l'Éternel et pour Gédéon. Beaucoup de versets dans la Bible nous donnent l'ordre de crier. Psaume 98, versets 4 et 9. Acclame l'Éternel aux terres tout entières. Poussez des cris de joie et d'allégresse au son de la musique. Aux yeux de l'Éternel, car il vient gouverner la terre. Oui, il gouverna le monde selon ce qui est juste. Il gouverna les peuples selon ce qui est droit. Psaume 35, verset 27. Alors ceux qui désirent voir mon droit établi pourront se réjouir et crieront de joie. Psaume 27, verset 6. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. Je ferai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Psaume 118, verset 15. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agit avec puissance. Psaume 71, verset 23. Je pousserai des cris de joie, je chanterai en ton honneur, et tout mon être, car tu m'as délivré. Ésaïe 12, verset 6. Poussez des cris de joie, exultez d'allégresse, habitants de Sion, car au milieu de vous, il est très grand, lui, le Saint d'Israël. Des fois, ce n'est pas nous qui crions. Quelquefois, c'est les anges qui crient. Comme au temps de la création, décrit en Job 38, verset 7. Quand les étoiles du matin éclataient, unanimes, dans des chants d'allégresse, et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie. Voici des versets qui nous disent que quand nous crions de joie, Dieu pousse des cris de guerre et triomphe sur ses ennemis. Ésaïe 42, versets 11 et 13. Désert et ville du désert, campement de Kéder, élevez votre voix, habitants de sel, exultez d'allégresse, du sommet des montagnes, poussez des cris de joie. L'Éternel sortira comme un héros, comme un homme de guerre, et réveillera son ardeur. Il poussera des cris de guerre, des cris terribles, il triomphera de ses ennemis. Et c'est pareil en Sophonie, chapitre 3, verset 14 à 17. Nous crions et Dieu pousse des cris aussi. Pousse des cris de joie aux communautés de Sion. Lance un cri de triomphe aux Israël. Réjouis-toi, exulte ton cœur, de tout cœur, aux communautés de Jérusalem. L'Éternel a levé le verdict de condamnation prononcé contre vous et a refoulé vos ennemis. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de vous. Vous ne craindrez plus le malheur. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Sois sans crainte, Sion. Ne baisse pas les bras, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un guerrier qui sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet. Il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, il sera dans l'allégresse à ton sujet et poussera des cris de joie. » Amen. Donc, technique de transformation numéro 5. Danser. Il y a beaucoup d'exemples dans les écritures de la danse. On ne va pas parler de tout aujourd'hui. Mais il y a un événement que je veux signaler. 2 Samuel, chapitre 6, versets 14 et 15. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel, vêtu seulement d'un vêtement de lin semblable à celui des prêtres. Ainsi, David et tout le peuple d'Israël transportèrent le coffre de l'Éternel en poussant des cris de joie et en faisant résonner les cors. Dans beaucoup d'histoires dans la Bible, on dansait parce que Dieu avait fait quelque chose pour son peuple. Il a sauvé son peuple de leur ennemi. Il a donné à son peuple une victoire sur ceux qui voulaient les détruire. Mais dans cette histoire, David danse en avance. Dieu n'a pas encore fait ce que David a demandé. En plus, la dernière fois que David avait essayé de faire venir l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, c'était une catastrophe. Quelqu'un est mort et il fallait arrêter. Après quelque temps, David essaie encore. Et cette fois-ci, David danse en avance. Il danse avant que Dieu ait agi. Il danse parce qu'il croit que Dieu va agir. Et alors, il danse comme si Dieu avait déjà agi. Ça, c'est la foi. Hébreux 11, versets 1 et 2 dit, « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes de temps passé ont été approuvés par Dieu. » David a déjà essayé de faire l'entrée à Jérusalem. Il n'a pas réussi. Mais il essaie encore, et cette fois, il danse de toutes ses forces, comme si Dieu avait déjà fait. Il danse par la foi. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. David espérait faire entrer l'arche à Jérusalem. Et par la foi, il a dansé de toutes ses forces. Il a possédé ce qu'il espérait. Des fois, on danse en avance. Et en dansant, on avance. On reçoit ce qu'on espérait. La danse devient un acte de foi. Et par la foi, on est sûr des réalités qu'on ne voit pas. David a dansé en avance. Et par cette foi, il a été approuvé par Dieu. Il a réussi par la foi. Technique défense numéro 6. Se tenir debout. Un jour, le roi Josaphat reçoit de mauvaises nouvelles. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 et 2. Par la suite, les Moabites et les Ammonites, renforcés par des Maonites, se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat. On vint prévenir Josaphat en ces termes. Une vaste armée est en train de marcher contre toi, d'au-delà de la mer morte et d'Edom. Elle a déjà éteint Atsatson Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Josaphat était le roi de Juda, un petit pays. Et là, il est attaqué par trois armées. Pas de possibilité de succès avec les armes de ce monde. Mais Josaphat et le peuple de Dieu se mettent debout. Se mettre debout, c'est aussi une technique de guerre. Dans la Bible, on ne loue pas le Seigneur dans une position assise. Jamais tu vas trouver une place dans la Bible où les gens ont prié ou loué le Seigneur assise. Prosterné, oui. Debout, oui. Marchant, oui. Dansant, oui. Mais pas assis. Alors le peuple de Dieu se met debout. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 13. Tout Juda, femmes et enfants y compris, se tenaient debout devant l'Éternel. Et là, ils attendaient, debout. Et puis arrive un prophète avec la parole du Seigneur, les ordres pour la bataille. 2 Chroniques 20, 14. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur Yahaziel, fils de Zacharie, descendant de Benya, de Yael et de Matania, un lévite de la ligne d'Asaph et au milieu de l'assemblée. Mais les ordres ne sont pas ce qu'on attendrait normalement. Verset 17. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position, de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel qui vous accorde la délivrance. Jean de Juda et de Jérusalem ne craignez rien. et ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Si les chants peuvent venir, s'il te plaît. Dieu leur dit de marcher à la rencontre de l'ennemi, de prendre position et de se tenir là. Et qui sera l'avant-garde de cette armée? Les chants. Mettons en pratique ce que nous avons lu et appris de la parole de Dieu. Les chants est venu. On va se mettre debout, tout le monde. On va danser, on va crier, on va faire confiance en Dieu. Amen. Le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant.